Harlan Coben, auteur à suspense dont on a pu voir certaines de ses séries en France, vient de sortir « Intimidation » traduit par Roxane Azimi chez Belfond. En voici le début. Non, sa vie ne bascula pas dès les premières paroles de l'inconnu. C'est ce qu'Adam Price se dit par la suite. Mais il se mentait. Il avait su tout de suite, dès la première phrase, que c'en était fini de sa paisible existence d'homme marié et de père de famille. C'était une phrase tout simplement, pourtant, mais le ton entendu. Emprunt de sollicitude, presque, lui fit comprendre que rien ne serait plus comme avant. « Vous n'étiez pas obligé de rester avec elle, » lui dit l'inconnu. Ils étaient à l'American Legion Hall de Cedarfeld, New Jersey, une ville peuplée de banquiers, de gestionnaires, de fonds, de placements et autres génies de la finance. Ils aimaient venir boire une bière à l'American Legion, histoire de s'encanailler sans prendre de risque, de se la jouer brave gars comme dans la pub pour le pick-up Dodge. Un rôle de composition s'il en était. Debout devant le comptoir poisseux, Adam tournait le dos au panneau de jeu de fléchettes. Les néons avaient beau vanter la Miller Lite, lui avait une Budweiser à la main. Il pivota vers l'homme qui s'était faufilé jusqu'à lui et même s'il connaissait déjà la réponse, lui demanda « C'est à moi que vous parlez ?» Le type était plus jeune que la moyenne des pères de famille, plus maigre, presque décharné, avec de grands yeux bleus perçants. Ses bras étaient blancs et grêles, avec un tatouage qui dépassait de l'une des manches courtes. Il portait une casquette de baseball, un look pas franchement hipster, plutôt vaguement intello, comme quelqu'un qui bosserait dans les nouvelles technologies et ne verrait jamais la lumière du jour. Les yeux bleus perçants fixaient Adam avec une intensité qui le mit mal à l'aise. « Elle vous a dit qu'elle était enceinte, n'est-ce pas ?» Adam sentit ses doigts se crisper sur la bouteille. « C'est pour ça que vous êtes resté. Corinne vous a dit qu'elle était enceinte. » Il eut l'impression qu'on actionnait un interrupteur dans sa poitrine, comme si un compte à rebours s'était mis en marche, un minuteur de bombe de cinéma. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Je vous connais. Corinne vous a dit qu'elle était enceinte, insista l'inconnu, puis qu'elle avait perdu le bébé. La clientèle de l'American Legion Hall se composait de chefs de famille en t-shirt de baseball blanc, aux manches trois quarts, assortis d'un bermuda ou d'un jean informe. La plupart étaient aussi affublés d'une casquette. C'était la soirée de sélection pour les équipes de lacrosse des 10-12 ans. Si on veut étudier les joueurs de catégorie A dans leur habitat naturel, pensait Adam, il n'y a qu'à observer les géniteurs lorsqu'ils se mêlent du recrutement. Cela méritait bien un documentaire du Discovery. Vous vous êtes senti obligé de rester, n'est-ce pas ? Reprit l'homme. Mais d'où diable ? Elle a menti, Adam. Il s'exprimait avec conviction, comme si non seulement il tenait son information de source sûre, mais qu'il agissait surtout et avant tout dans l'intérêt d'Adam. Corinne a tout inventé, elle n'a jamais été enceinte. Les paroles continuaient à pleuvoir comme des coups sapant sa résistance, le laissant hébété, abasourdi, presque à terre. Il aurait voulu riposter, attraper l'autre par le cou et le jeter dehors pour avoir insulté sa femme. Mais il ne le fit pas pour deux raisons. Primo, parce qu'il n'en avait pas la force. Secundo, l'homme semblait si sûr de lui qu'il ne serait peut-être pas déraisonnable de le laisser parler. « Qui êtes-vous ? » demanda Adam. « Ça change quelque chose ?»« Évidemment. Je suis l'inconnu, » déclara-t-il. « L'inconnu qui sait ?»« Corinne vous a menti, Adam. Elle n'était pas enceinte, c'était juste une ruse pour vous garder. » Adam secoua la tête, s'efforçant de s'éclaircir les idées. J'ai vu le test de grossesse. C'était un faux. J'ai vu l'échographie. Encore un faux. Il arrêta Adam d'un geste de la main, tout comme le ventre d'ailleurs. Ou les ventres, devrais-je dire. Quand Corinne a commencé à s'arrondir, vous ne l'avez plus jamais vue nue, n'est-ce pas? A-t-elle prétexté des nausées ou quoi que ce soit pour ne plus avoir de rapport? C'est ce qui arrive la plupart du temps. Du coup, avec le recul, on se dit que c'était une grossesse à problème depuis le début. Une voix tonna à travers la salle. « Ok les gars, reprenez une bière et on y va !» C'était Trip Evans, président de la Ligue de lacrosse, ancien publiciste dans une boîte sur Madison Avenue et globalement un chic type. Les autres allèrent chercher des chaises en alu, de celles qu'on utilise pour les spectacles scolaires, et les disposèrent en cercle. Trip Evans regarda Adam, remarqua sa pâleur et, inquiet, fronça les sourcils. Adam l'ignora et se tourna vers l'inconnu. « Mais qui êtes-vous à la fin ? Considérez-moi comme votre sauveur ou comme un ami venu vous libérer d'une prison affective. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. » Presque toutes les conversations s'étaient interrompues dans la salle. On n'entendait plus que des murmures étouffés et le raclement des chaises sur le sol. Les hommes arboraient une mine impassible, ce qui avait le don d'horripiler Adam. En fait, il n'était même pas censé être là. C'est Corinne qui était la trésorière de la Ligue, mais on lui avait avancé la date de son colloque de prof à Atlantic City. Et bien que ce soir, le jour J du lacrosse à Cedarfield, la raison principale de son engagement, Adam s'était vu contraint de la remplacer. « Vous devriez me remercier, » dit l'homme. « De quoi ?» Pour la première fois, l'homme sourit. C'était, nota Adam, malgré lui, un bon sourire, un sourire de guérisseur, de quelqu'un qui veut bien faire. « Vous êtes libre, » répondit l'inconnu. « Vous mentez. Vous dites ça, Adam, mais vous ne le pensez pas. » « Adam ?» lança Trip Evans à travers la salle. Il se retourna. Tout le monde était assis maintenant, sauf l'inconnu et lui. « Il faut que j'y aille, » chuchota l'inconnu. « Mais si vous voulez des preuves, jetez un œil sur les relevés de votre carte Visa. Un prélèvement en faveur de Novelty Fancy. »« Attendez. Une dernière chose. » L'homme se pencha plus près. « Si j'étais vous, je ferais faire un test ADN à vos deux garçons. » Tic-tac, tic-tac, boum. Quoi? Je n'ai pas d'infos là-dessus, mais quand une femme est prête à mentir sur ces choses-là, il y a des chances que ce ne soit pas la première fois. Et après avoir porté l'estocade, il se hâta vers la sortie. Lorsqu'il eut recouvré l'usage de ses jambes, Adam se précipita pour le rattraper. Trop tard, l'inconnu s'était engouffré dans une Honda Accord grise. La voiture démarra. Adam courut derrière pour essayer d'entrevoir le numéro de la plaque, mais tout ce qu'il parvint à distinguer, c'est qu'elle était immatriculée dans le New Jersey. La Honda tourna pour sortir du parking, et alors il vit autre chose. C'était une femme qui conduisait, une femme jeune, aux longs cheveux blonds. À la lueur du réverbère, il croisa son regard, un regard empli d'inquiétude et d'empathie. La voiture s'éloigna en trombe. Quelqu'un l'appela. Adam fit demi-tour et regagna la salle. On commença par constituer l'équipe qui allait jouer à domicile. Adam avait beau se concentrer, les sons lui parvenaient comme à travers l'équivalent d'une paroi de douche opaque. Corinne lui avait simplifié la tâche. Elle avait classé tous les garçons qui postulaient pour la classe de sixième et il n'avait plus qu'à choisir parmi ceux qui restaient. Le véritable enjeu, la vraie raison de sa présence ici, était de s'assurer que leur fils Ryan soit pris dans la meilleure équipe, celle qui jouerait à l'extérieur. Thomas, leur aîné, aujourd'hui en seconde, avait loupé la sélection en son temps, faute de motivation suffisante de la part de ses parents. Du moins, c'est ce que pensait Corinne, et Adam ne la contredisait pas. La plupart des papas n'étaient pas là tant par amour du sport que pour défendre les intérêts de leur progéniture, y compris Adam. Pitoyable, mais que voulez-vous ? Il tenta de chasser de son esprit ce qu'il venait d'apprendre. D'où il sortait ce type ? Mais n'y parvint pas. Les notes de repérage de Corinne se brouillaient devant ses yeux. Avec une précision quasi obsessionnelle, elle avait classé les garçons par ordre décroissant, du meilleur au moins bon. Dès que l'un d'eux était sélectionné, Adam rayait machinalement son nom. Il examina l'écriture impeccable de Corinne, à l'exemple de ces lettres modèles que la maîtresse épinglait au tableau à l'école primaire. C'était tout elle. Le genre de fille qui arrive en classe en se plaignant qu'elle va tout rater, qui termine le contrôle la première et décroche un A. Elle est intelligente, dynamique, belle et... menteuse. Passons aux équipes à l'extérieur, les gars, dit Trip. À nouveau, les pieds des chaises raclèrent le sol. Toujours groggy, Adam rejoignit les quatre hommes chargés de constituer les équipes A et B qui joueraient à l'extérieur. Là, c'était du lourd. Les équipes à domicile restaient sur place. Les meilleurs joueurs intégraient les équipes A et B et se déplaçaient pour disputer des matchs à travers tout l'État. Novelty Fancy, pourquoi ce nom ne lui était-il pas inconnu ? L'entraîneur principal des sixièmes se nommait Bob Brame. Mais en son fort intérieur, Adam l'appelait Gaston, en référence au personnage du dessin animé « La Belle et la Bête ». Bob était une sorte de gros patapouf, au sourire béat qui faisait penser au ravi de la crèche. Il était bruyant, vantard, bête et méchant, et quand on le voyait passer, bombant le torse, les bras ballants, on entendait presque la chanson de la bande-son. Le plus fort, c'est Gaston, le plus sport, c'est Gaston. Laisse tomber, se dit Adam, ce type t'a fait marcher, c'est tout.
Couleur FM 97.1.
À l'onde des mots, lecture libre, vivre livre. J'ai découvert Sylvain Tesson avec son récit Bérézina, sorti l'année dernière et sacré meilleur récit de voyage de l'année. J'ai été conquise par son écriture et je tiens à vous lire un extrait de son dernier récit bref et toujours aussi puissant sur les chemins noirs, paru chez Gallimard. Sylvain Tesson a traversé la France à pied. En voici l'introduction, avant-propos. L'année avait été rude. Longtemps, les dieux avaient favorisé la famille, nous avaient baignés de leur douceur. Peut-être se penchent-ils sur certains d'entre nous, comme les fées des contes. Puis leur sourire se crispe en grimace. Nous ne savions rien de ces choses, mais nous goûtions cette amabilité du sort avec une désinvolture énergique. Elle nous affranchissait de la moindre gratitude, mais nous contraignait à une épuisante légèreté. La vie ressemblait à un tableau de Bonnard. Il y avait du soleil sur les vestes blanches, des compotiers sur les nappes, des fenêtres ouvertes sur un verger où passaient des enfants. Dehors, les pommiers bruissaient, le décor idéal pour un bon coup de massue. Cela n'avait pas tardé. Mes sœurs, mes neveux, tout le monde avait été atteint de l'un de ces maux qui s'infiltrent par les remparts dans les fables médiévales. Une ombre rampe dans les ruelles, atteint le cœur de la ville, gagne le donjon. La peste avançait. Ma mère était morte comme elle avait vécu, faisant faux bond, et moi, pris de boisson, je m'étais cassé la gueule d'un toit où je faisais le pitre. J'étais tombé du rebord de la nuit, m'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. J'étais tombée sur un tas d'os. Je regretterai longtemps cette chute, parce que je disposais jusqu'alors d'une machine physique qui m'autorisait à vivre en surchauffe. Pour moi, une noble existence ressemblait aux écrans de contrôle des camions sibériens. Tous les voyants d'alerte sont au rouge, mais la machine taille sa route, et le moindre Cassandre à gueule d'idiot qui agite les bras en travers de la piste pour annoncer la catastrophe est écrasé menu. La grande santé, elle menait au désastre. J'avais pris 50 ans en 8 mètres. On m'avait ramassé, j'étais revenu à la vie. Mort, je n'aurais même pas eu la grâce de voir ma mère au ciel. 100 milliards d'êtres humains sont nés sur cette terre depuis que les Homo sapiens sont devenus ce que nous sommes. Croit-on vraiment qu'on retrouve un proche dans la cohue d'une termitière éternelle encombrée d'angelots? À l'hôpital, tout m'avait souri. Le système de santé français a ceci de merveilleux, qu'il ne vous place jamais devant vos responsabilités. Dans une société antique régie par un principe d'éthique, on ne devrait pas s'occuper d'un soulographe avec les mêmes égards que ceux dispensés aux vrais nécessiteux. On ne m'avait rien reproché, on m'avait sauvé. La médecine de fine pointe, la solitude des infirmières, l'amour de mes proches, la lecture de Villon, le punk, tout cela m'avait soigné. Il y avait surtout eu la sainteté d'un être venu chaque jour à mon chevet, comme si les hommes de mon espèce méritaient les fidélités de bêtes. Un arbre par la fenêtre m'avait insufflé sa joie vibrante. 4 mois plus tard, j'étais dehors, bancal, le corps en peine, avec le sang d'un autre dans les veines, le crâne enfoncé, le ventre paralysé, les poumons cicatrisés, la colonne cloutée de vis et le visage difforme. La vie allait moins soigner. Il fallait à présent me montrer fidèle au serment de mes nuits de pitié. Corseté dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute « Si je m'en sors, je traverse la France à pied. Je m'étais vue sur les chemins de pierre, j'avais rêvé au bivouac, je m'étais imaginé fendre les herbes d'un pas de cheminot. Le rêve s'évanouissait toujours quand la porte s'ouvrait. C'était l'heure de la compote. Un médecin m'avait dit « L'été prochain, vous pourrez séjourner dans un centre de rééducation. » Je préférais demander au chemin ce que les tapis roulants étaient censés me rendre, des forces. L'été prochain était venu. Il était temps de régler mes comptes avec la chance. En marchant, en rêvassant, j'allais convoquer le souvenir de ma mère. Son fantôme apparaîtrait si je martelais les routes buissonnières pendant des mois. Pas n'importe quelle route. Je voulais m'en aller par les chemins cachés, bordés de haies, par les sous-bois de ronces et les pistes à ornières reliant les villages abandonnés. Il y avait encore une géographie de traverse pour peu qu'on lise les cartes, que l'on accepte le détour et force les passages. Loin des routes, il existait une France ombreuse, protégée du vacarme, épargnée par l'aménagement qui est la pollution du mystère. Une campagne du silence, du sorbier, de la chouette effraie. Les médecins, dans leur vocabulaire d'agents du Politburo, recommandaient de se rééduquer. Se rééduquer, cela commençait par ficher le camp. Des motifs pour battre la campagne. J'aurais pu en aligner des dizaines. Me seriner, par exemple, que j'avais passé 20 ans à courir le monde entre Ulaanbaatar et Valparaiso, et qu'il était absurde de connaître Samarcande alors qu'il y avait l'Indre et Loire. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé au fond de mon sac. Mauvais début, dans le train. Pourquoi le TGV menait-il cette allure? À quoi servait-il de voyager si vite? L'absurdité de laisser filer à 300 à l'heure le paysage qu'il faudrait ensuite remonter à pied pendant des mois. Pendant que la vitesse chassait le paysage, je pensais aux gens que j'aimais, et j'y pensais bien mieux que je ne savais leur exprimer mon affection. En réalité, je préférais penser à eux que les côtoyer. Ses proches voulaient toujours que l'on se voie, comme il s'agissait d'un impératif, alors que la pensée offrait une si belle proximité. Le 24 août, à la frontière italienne, c'était mon premier jour de marche depuis la gare de Tende, où m'avait mené le train de Nice. Je montais à pas faibles vers le col. Des graminées blondes balayaient l'air du soir. Ces révérences étaient une première vision d'amitié, de beauté pure. Après des mois si tristes, même les moucherons au soleil offraient d'heureux présages. Leurs nuages, dans l'or tiède, adressaient un signe à la solitude. On aurait cru une écriture. Peut-être, nous disait-il, cessez votre guerre intégrale contre la nature. Des cèdres se tenaient sur le bord du chemin sérieux. Leurs racines en serraient les talus. L'arbre a trouvé l'air sûr de son bon endroit. Un berger descendait d'une foulée plus hardie que la mienne. Il apparut noueux dans le virage, avec l'allure d'un héros de Giono. Un homme d'ici. Moi, j'avais toujours eu l'air d'un mec d'ailleurs. « Salut, tu vas à la ville ?» dis-je. « Non, » dit-il. « Il y a le troupeau là-haut ?» dis-je. « Non. » « Tu descends te reposer ?» Non. J'allais devoir me débarrasser de cette habitude de citadin de vouloir lier conversation. Le col de Tende marquait un encellement de la ligne de crête du Mercantour. Il séparait l'Italie de la France. J'avais décidé de commencer là, dans le coin sud-est du pays, et de rejoindre le nord du Cotentin. Les Russes, par tradition, avant de partir en voyage, s'asseyaient quelques secondes sur une chaise, une malle, sur la première pierre venue. Ils font le vide en eux, pensent à ceux qu'ils quittent, s'inquiètent de savoir s'ils ont fermé le gaz, caché le cadavre, que sais-je encore. Je m'assis donc, manière Ruskov, le dos contre un oratoire de bois où une vierge méditait devant le paysage d'Italie. Soudain, je me levai et je partis. Sur les talus, mes yeux abîmés prirent les vaches pour des pierres rondes roulées dessus les pentes. Les crêtes hérissées de pins noirs faisaient penser aux collines que j'avais vues à 20 ans, crénelées les horizons du Yunnan chinois et bleu. Mais je chassai ces pensées dans l'air du couchant. Ce fatras d'analogie m'encombrait. N'avais-je pas juré de me tenir pendant quelques mois sous le commandement des poèmes païens de Pessoa? De la plante, je dis, c'est une plante. De moi, je dis, c'est moi. Et je ne dis rien de plus. Qu'y a-t-il à dire de plus? Oh, je le soupçonnais, Pessoa, l'intranquille, de n'avoir jamais été fidèle à son projet. Comment croire qu'il ait réussi à se contenter du monde? On écrit ce genre de manifeste et on passe sa vie à trahir cette théorie. Pendant ces semaines de marche, j'allais tenter de déposer sur les choses le cristal du regard sans la gaze de l'analyse, ni le filtre des souvenirs. Jusqu'ici, j'avais appris à faire de la nature et des êtres une page où noter les impressions. Il m'était urgent à présent d'apprendre à jouir du soleil sans convoquer de Stahl, du vent sans réciter Hölderlin et du vin frais sans voir Falstaff clapoter au fond du verre. Bref, à vivre comme un de ces chiens, ils goûtent la paix, langue pendante, donnant l'impression qu'ils vont avaler le ciel, la forêt ou la mer, et même le soir qui tombe. Bien entendu, l'entreprise était vouée à l'échec. Un petit Européen ne se refait pas. À 2000 mètres d'altitude, j'avisai un replat d'herbes épaisses près d'un bunker de béton. J'allumai un feu, le bois était humide, et je soufflais tellement sur les braises que ma tête enfoncée tournait. La chaleur délogea des araignées grasses, elles ne me faisaient plus peur, j'en avais vu beaucoup s'échapper de mes orbites. La toile de bivouac me protégea à peine des nuages humides crachés par l'obscurité. J'étais intimidée, c'était la première nuit que je passais à l'air libre après ma chute. Le sol m'accueillait à nouveau, moins brutalement cette fois. Je revenais dans mon jardin aimé, une forêt sous les étoiles. L'air était frais. le sol inégal, le terrain en pente. Cela s'annonçait bien. Les nuits dehors, pour peu qu'on les chérisse et les espère quand elles couronnent les journées de mouvement, sont à accrocher au tableau des conquêtes. Elles délivrent du couvercle, dilatent les rêves. N'entendait-on pas s'élever la clameur dans les villes d'Europe ? De l'air, de l'air ! J'avais rêvé de m'allonger sous les sapins quand je gisais un an plus tôt à l'hôpital. Voilà que revenait le temps des bivouacs.
Color FM 97.1.
Véronique Ovaldia et ses obsessions qui sont la puissance des femmes, le mensonge et l'opiniâtreté. Voici un extrait de son dernier livre « Soyez imprudents, les enfants » qui se veut être un livre d'initiation. Ce que Mathilda voulait, ce que voulait son cœur d'enfant, personne ne s'en était vraiment soucié jusqu'à ce jour de janvier 1974 où elle décida que c'en était trop et que ce qui s'annonçait à elle la faisait se sentir aussi triste et pesante qu'un sac de pierre. Comment ce cœur d'enfant pouvait-il peser si lourd? Comment prit-elle sa décision? En ce petit matin de janvier, elle tenta de sortir de la maison de Barsonetta, mais la porte était close, et ceci changea son projet. Elle fit comme Hansel qui se rabattit sur le quignon de pain parce que la porte était verrouillée. Elle fit comme lui, et tout comme il abandonna l'assurance de retrouver son chemin grâce aux petits cailloux qu'il aurait ramassés dans la cour, elle abandonna l'idée de se jeter au fond du puits du jardin, ainsi qu'elle l'avait projeté dans le carnet qu'on retrouva plus tard sous son lit. Elle retourna dans sa chambre, se déshabilla et enfila la chemise qu'elle venait de broder, des daims, des loups et des oiseaux verts. Puis elle sortit son attirail, s'assit sur le lit, salua chacun de ses petits animaux et s'injecta par trois fois sa dose d'insuline, une fois dans la cuisse droite, deux fois dans le ventre. Et elle sombra dans le coma, et cela sans un cri, sans un bruit, comme si sa détermination, son incroyable détermination, l'empêchait d'être submergée par la douleur, l'effroi et le chagrin, gommant sa lucidité et l'espoir qu'elle aurait pu mettre dans toutes ces longues années qui lui restaient à vivre et dont elle se privait si brutalement. Première partie, quelques jours en Espagne. Les flamboyantes passions post-dictatoriale. Ce n'est qu'en rentrant hier soir de l'Institut de Barrales, tandis que je conduisais lentement le bras gauche à l'extérieur de la portière afin de goûter au vent chaud qui vient du sud et de l'Afrique, que j'ai pensé à ce qui m'avait amené précisément ici, dans cette voiture qui remontait la colline. Tout avait commencé quand j'avais 13 ans. Avant mes 13 ans, il n'y avait rien. Seulement la longue attente de l'enfance, le sommeil et l'ennui dévorés de mauvaises herbes. L'histoire d'Athanasia Bartolome pourrait donc avoir débuté, me disais-je, lors de la grande exposition de 1983 au Musée d'art et du patrimoine de Bilbao. Je pourrais écrire que cette exposition avait marqué un tournant, mais ce ne serait pas assez fort puisque, juste avant cette exposition, tout était immobile et pétrifié. Et pour marquer un tournant, il eût déjà fallu être en marche. En fait, ma visite à la grande exposition de 1983 avait été la conséquence du désir d'émancipation de Mademoiselle Frabegat, mon professeur d'histoire de l'art. J'aimerais pouvoir dire que c'est par elle que tout est arrivé. J'aimerais utiliser cette formule si satisfaisante et si catégorique. mais c'est simplement que Mademoiselle Frabegat, en plus d'avoir des accointances indépendantistes, rêvait d'un monde où personne n'aurait considéré que vous n'aviez plus qu'à rôtir dans les feux de l'enfer si vous aviez ressenti une bouffée de désir, de concupiscence envers votre voisin de palier. Mademoiselle Frabegat faisait partie des rares professeurs qui nous demandaient de nous indigner devant les affiches qu'on voyait encore sur certains murs de la ville et accessoirement de les arracher. Ces affiches de la commission épiscopale d'orthodoxie et de moralité célébraient le port de vêtements décents pour les femmes et concevaient l'activité ménagère comme une pratique idéale de la gymnastique. Aussi vais-je me permettre d'écrire avec précaution que c'est parce que mon professeur d'histoire de l'art était une femme piaffant d'impatience que j'ai rencontré Roberto Dias Uribe et que j'ai emprunté la route, on en revient toujours à ces affaires de virages et de croisées des chemins, comme lorsque le diable donna le choix à Robert Johnson entre l'art et la vertu, menant à l'obsession qui, durant trop longtemps, constitua ma vie. Je pourrais vous dire, puisque je l'ai cru pendant pas mal d'années, que cette histoire a débuté il y a 150 ans, quand mon aïeul Gabriel Bartolome, suivi Pierre Savorgnan de Brazza au Congo, en pensant benoîtement explorer, édifier et ne jamais conquérir. Ou quand son frère jumeau, Saturnino Bartolome, décida de construire un phalanstère au Brésil. Je pourrais tout autant vous dire que cette histoire remonte à 400 ans quand mon ancêtre Feliciano Bartolome coucha avec la maîtresse de l'évêque de la province et dut quitter son village d'Ubouruc pour courir le monde puisque la chair l'avait trahi et mis au banc. Mais je ne veux pas commencer par là. Je pense qu'il faut que je commence par vous parler d'Atanasia Bartolome et de ce qu'elle ressentit quand elle vit pour la première fois une toile de Roberto Dias Uribe. À cette époque, j'étais Atanasia Bartolome. Mais comment parler de moi, de mes souvenirs, de mon enfance, sans que la petite voix qui m'accompagne depuis toujours prenne la parole? Si je retourne à la maison de mon enfance, alors la petite voix qui me raconte ma propre vie s'installe confortablement. Si je retourne à la maison de mon enfance, alors je redeviens Atanasia Bartolome. L'exposition qui fut à Bilbao l'un des événements de ce mois de juin 1983 fut considérée par beaucoup comme une provocation. Elle s'intitulait « Mon corps mis à nu ». Elle disait en effet qu'on pouvait de nouveau montrer en Espagne les corps, la chair, leur beauté et leur effondrement, et qu'on allait mettre de côté pour un moment les tableaux tauromachiques. Elle présentait des toiles de Schiele, Bacon, Freud, Picasso, et une toile monumentale de Roberto Dias Uribe. J'avais 13 ans. Je ne connaissais rien à rien, seulement le temps long de la dictature, sa queue de comète et la mémoire tronquée. Nous n'avions jamais encore eu l'occasion de visiter dans le cadre scolaire autre chose qu'une église de jésuites. La lumière était accrue ce matin de juin et je traînassais derrière mes camarades, les regardant marcher par grappes de 3 ou 4, cheveux nattés, serrés, contraints, corps boudiné dans notre uniforme à carreaux, boudiné parce que près de s'échapper, et nous marchions sur le trottoir et nous agglutinions à chaque feu rouge dans un mouvement aquatique qui évoquait un banc d'anchois allant et venant et scintillant, s'étirant et se reformant avec régularité. Je portais des chaussettes tire-bouchonnées, des baskets noires et un bracelet de force que j'avais trouvé au marché pour contrecarrer cette tenue de bonne sœur. C'est ainsi que nous l'appelions. Et chacune d'entre nous, en transgressant comme elle pouvait la bienséance, vu que Mademoiselle Frabegat, notre professeur d'histoire de l'art, était une femme en pleine conquête de son indépendance et que nous voulions toutes lui plaire. Je traînassais dans la perspective d'un après-midi sous le regard moins vigilant que d'habitude de Mademoiselle Fabregat, que les années 1980 galvanisaient et poussaient à porter des jupes en cuir très courtes. Je traînassais parce que je traînassais depuis toujours. Je marchais seule parce que jamais je n'avais réussi à caler mon pas sur celui d'une autre. Ce jour de juin 1983 était si limpide, avec un ciel d'un bleu catégorique au-dessus de Bilbao, punaisé de quelques nuages blancs, comme ceux qu'on voit au-dessus des Sierras dans les westerns, des nuages parfaits, décoratifs et inoffensifs, et je marchais en m'inquiétant de ne pas encore avoir mes règles, mais en ne souhaitant pas vraiment les avoir. Alors que toutes mes camarades en parlaient et arrivaient une à une le matin avec un air de fierté et de mystère qui disait qu'elles étaient passées de l'autre côté. Et moi, je traînassais et je faisais attention de ne pas marcher sur les lignes du trottoir. Et je pensais que peut-être je n'allais jamais les avoir et que je serais obligée de faire semblant et d'arriver moi aussi un matin avec un air de fierté et de mystère dont tout le monde se foutait puisque j'étais tellement solitaire. Nous avions monté les marches du musée et Mademoiselle Fabregat s'était retournée en haut de l'escalier pour nous compter et nous jauger. Elle arborait ce jour-là un pantalon noir assez serré pour que nous croyions toutes qu'elle ne portait pas de sous-vêtements. Elle était flamboyante devant la porte du musée à rameuter ses ouailles et j'étais si impressionnable et si prête à m'enthousiasmer que je me sentais frémissante, mais frémissante n'est pas le mot approprié. Vibrante serait plus juste. Et je vous dis cela parce que cet état ne fut pas étranger à ce qui s'est produit dès l'entrée du musée. Le tableau de Díaz Uribe ouvrait l'exposition. Il vous sautait quasiment au visage. Il était comme une revendication. La toile, aux dimensions spectaculaires, représentait le corps d'une femme à qui Díaz Uribe avait donné certaines caractéristiques animales ou qui me parurent comme telles. Le trouble de cette langueur lasse si féminine, alliée à ses mains trop griffues ou à cette pilosité trop visible, m'a bouleversée. La femme était assise sur le sol, elle était décentrée. La plus grande partie de la toile était occupée par un carrelage bleu aux motifs géométriques répétitifs. La femme était nue, le menton relevé, sa peau était bleutée, marbrée, transparente, d'une transparence maladive, épuisée, sexuelle. Je me suis figée en plein élan, saisie. C'était donc cela que j'attendais depuis si longtemps ? Je n'ai pas réussi à faire le tour complet de l'exposition. J'avais 13 ans. Ma déambulation me ramenait sans cesse à la toile de Díaz Uribe. Je restais en arrière des autres et m'éclipsais. On aurait pu croire que je tentais de surprendre quelque chose dans la toile de Díaz Uribe, quelque chose qui aurait bougé pendant que je ne regardais pas et qui se serait immobilisé dès que j'y aurais jeté les yeux. Athanasia Bartolome avait un rapport particulier aux choses invisibles. Nous en reparlerons. Puis je m'éloignai du tableau, rattrapai dans une galerie attenante le groupe qui écoutait le professeur exalté par toute cette moderne nudité exposée, et ensuite je revenais sur mes pas pour me planter de nouveau devant le tableau.
Couleur FM.
Avez-vous, comme moi, jubilé en lisant la fresque « Une vie française » de Jean-Paul Dubois ? Et il vient de sortir la succession aux éditions L'Olivier, et je me fais le plaisir de vous en lire un extrait. Tous les jours, le bonheur. Ce furent des années merveilleuses. 4 années prodigieuses durant lesquelles je fus soumis à mon apprentissage fulgurant et une pratique intense du bonheur. Il m'avait fallu attendre 28 ans pour éprouver chaque jour cette joie d'être en vie au petit matin, de courir pour polir mon souffle, de respirer librement, de nager sans peur et de ne rien espérer d'autre d'une journée, sinon qu'elle m'accompagne comme l'on promène une ombre et que le soir venu, elle me laisse en l'état, simplement satisfait. Abruti de quiétude et de paix, loin de ce territoire désarticulé que j'avais abandonné, et surtout loin de ceux qui m'avaient mis au monde par des voies naturelles, m'avaient élevé, éduqué, détraqué et sans aucun doute transmis le pire de leurs gènes, la lie de leurs chromosomes. Sur ce dernier point, je sais parfaitement ce dont je parle. De la mi-novembre 1983 au 20 décembre 1987, je fus donc un homme profondément heureux, comblé en toutes choses et vivant modestement des revenus que me procurait la pratique du seul métier que j'ai jamais rêvé d'exercer depuis mon enfance, pelotarie. En Floride et surtout au Jai-Hai-Lai de Miami, j'ai fait partie de ce petit cercle de professionnels de la pelote basque rétribuée à l'année pour danser sur les murs, jouer du grand gant, fendre l'air avec une senta punta et propulser des balles de buis cousues de peau de chèvre à 300 km/h sur le plus grand fronton du monde. Un Vatican peuplé de 100 papes aux mains d'osier, frôlé par les avions de l'aéroport international de Miami et fréquenté alors par ce qui se faisait de mieux dans une ville qui, il faut bien le reconnaître, n'avait jamais été trop regardante sur la fabrique de son aristocratie. Pour pratiquer dans cette arène aux trois murs peints du vert profond des océans basques, pour jouer à ce rythme, à un tel niveau, faire simplement partie de la liturgie, j'aurais autrefois engagé des fortunes. Et voilà qu'au contraire, j'étais rémunérée par contrat à l'année pour mitrailler ces murs et faire hurler de joie 10 ou 15 000 types qui avaient parié sur moi le temps d'une quiniella avant de choisir de miser l'instant d'après sur un autre arrière. Pour cette foule de parieurs, je n'étais rien d'autre qu'un support de paris mutuels, un chien de synodrome, un bourrin d'hippodrome. Mais cette condition me convenait. Je ne jouais jamais pour eux, mais pour moi. Comme quand j'étais enfant, autiste, coupé du monde, lové dans mon gant, agrippé à ma pelote, martelant sans fin les frontons libres d'Andaï, de Saint-Jean-de-Luz ou d'Ixassou. Et puis, sachant d'où je venais, même un statut de modeste trotteur crottant du dollar, ça et là faisait mon affaire. J'avais passé mon enfance à travailler, étudier, apprendre des choses inutiles et insensées sous le regard étrange d'une famille restreinte de 4 personnes totalement déroutantes, déboussolées et parfois même terrifiantes. Mon grand-père, Spiridon Catrachilis, prétendait entre autres fait d'armes avoir été l'un des médecins de Staline et posséder une fine lamelle de son cerveau dérobée lors de l'autopsie qu'il avait lui-même pratiquée plusieurs jours après l'hémorragie cérébrale de Vissarionovitch Djougachvili. Il se suicidera en 1974 dans de singulières conditions. Mon père, Adrian Catrachilis, également praticien, faisait valoir des singularités moins exotiques, mais n'en était pas moins un homme assez inquiétant. Il disait souvent des choses incompréhensibles, criait « strofinatio » à tue-tête et sans raison, mot qui veut dire « bout de chiffon » en italien, et avait pour habitude de recevoir ses patients en short dès les premiers beaux jours. Cette excentricité ne datait pas d'hier, puisque pendant ses études, lorsqu'il assurait des gardes de nuit à l'hôpital, il était réputé pour avoir examiné ses patients en slip. Anna Gallieni, ma mère, ne remarquait pas vraiment les singularités de son mari et ne s'en inquiétait pas le moins du monde. Elle avait suffisamment à faire auprès de son frère cadet, Jules, avec qui elle partageait un petit magasin familial dédié à la réparation de montres en tout genre. Avec ce frère, elle vivait avec nous dans la maison commune. Avec ce frère, sur le canapé, elle regardait aussi tous les soirs la télévision jusqu'à ce que Jules s'endorme et pose sa grosse tête dans le creux de l'épaule de sa sœur. Jules était toujours collé à Anna et Anna toujours auprès de Jules. Ce dernier mit fin à ses jours au printemps 1981. Ma mère l'imita au début de l'été dans une mise en scène qui laissa mon père perplexe sans que cela semble pour autant l'affecter. Enfant, je grandis donc devant Spiridon, qui marinait devant sa tranche de cervelet, un père court, vêtu, vivant comme un célibataire, et une mère quasiment mariée à son propre frère, qui aimait dormir contre sa sœur et devant les litanies de la télévision. Je ne savais pas ce que je faisais parmi ces gens-là, et visiblement, eux non plus. Certes, les suicides de tous les miens mettront un peu d'ordre dans la confusion de ces liens. Ces apparentements désordonnés, cette inaptitude à s'aimer et à donner à un enfant ne fût-ce que l'image d'un peu de confiance et de bonheur. Le plus étrange, c'est que la mort traversa à plusieurs reprises notre maison et les survivants s'en aperçurent à peine, la regardant passer comme une vague femme de ménage. Je m'appelle Paul Katrakilis et je suis docteur en médecine. Je n'ai jamais exercé. Je loue un appartement sur Ialay Drive. Je possède une vieille voiture au plancher de dentelle et un vieux bateau, guère plus étanche, équipé, lui, d'un diesel Volvo auquel je confie régulièrement mon destin. Il est amarré dans une marina du sud de la ville, sans eau ni électricité. Je n'aime qu'une chose, la pelote basque, même si je suis née à Toulouse. On y construit tous les avions du monde, et pourtant la plupart des pelotaris croient ou considèrent que cette ville est une sorte de lointaine banlieue de Bayonne ou de Guernica. Et quand un Philippin ou un Argentin me demande si chez moi il y a un grand Jai Alai, je ne peux que répondre non, juste un fronton libre. L'hiver à Miami, c'est la haute saison. Les Américains des grands lacs et des régions des plaines, les Canadiens grignotés par le froid, croient depuis toujours en l'été éternel de la Floride. Alors, saints de leur missel et de leur foi météorologique, ils remplissent les hôtels, les bars, les restaurants cubains, juifs, argentins, les casinos indiens séminoles et les boîtes de nude girls qui fêtent Noël tous les soirs depuis que le monde est monde. Le 19 décembre 1987, nous avions joué en matinée et rempli le Jai Alai le soir en multipliant les Kinileas jusqu'à 1 h du matin. Parfois, la foule rugissait comme un moteur d'avion. À d'autres moments, elle émettait un bruit de fond sourd et profond, évoquant le ronronnement productif d'une usine au labeur. Et cette usine-là produisait de l'argent et toutes sortes de choses que peut contenir le monde, mais qui ne se disent ni se montrent. Cette usine fabriquait aussi des histoires et des légendes, des rumeurs et des crimes. En quelques années, sans doute un peu trop tracassés par la mafia, 3 directeurs de Jai Alai, floridiens, avaient perdu la vie dans des circonstances fort diverses. Le premier fut abattu d'une balle dans la tête sur son parcours de golf. Le second, soigneusement découpé pour pouvoir être rangé dans la malle de sa conduite intérieure. Quant au troisième, que l'on ne retrouva jamais, il est probable qu'il ait contribué à la solidité des fondations de l'un des immeubles qui poussaient quotidiennement sur les sables fertiles des rives de l'océan. En quittant le fronton, dehors, la nuit sentait vraiment la nuit, une nuit du sud, urbaine et cuisinée, stimulante et négligée, parfumée au polo assudo des food trucks et au kérosène transpirant des 747 tout proches. une odeur diffuse, particulière à cet endroit, bien loin des mangroves et qui se répandait à la façon d'un prégnant et invisible brouillard à mesure que tombait le soir. J'avais remporté quelques points en défense et empoché $60 de prime, des sommes qui n'avaient rien de bien extraordinaire, mais qui, à la fin du mois, me permettaient parfois de doubler les $1,800 de ma paye. Les plus grosses vedettes pouvaient gagner 8 à 10 000 $ par mois. C'est elles qui faisaient se lever les foules et chanter les paris. Nous, nous étions les petites mains, les petits gants de l'entreprise, la classe ouvrière d'un drôle de monde qui partait chaque jour au labeur avec son casque de mineur coloré et son étrange outil de travail dont l'âme était gainée de châtaigniers coupés à lune descendante et le corps d'une armure blonde tressée d'osier. En 3 ans, j'avais acheté 3 voitures et en avais revendu 2. Une vieille Mercury Brougham qui sentait perpétuellement le vieux poisson et que l'on ne voyait plus circuler que dans de vieux feuilletons tournés au Mexique. Une Wagoner de 1964 avec un plaquage de faux noyer en plastique appliqué sur le bas des portes et la malle arrière. Avec le maigre produit de ses ventes, j'avais acquis une Carman Gia de 1961, dont le plancher était dévoré par la rouille qui s'attaquait aussi aux ailes et aux contours des phares. Cette nuit-là, c'est avec Joey Epifanio, mon dernier partenaire de Quiniela, que je partis dîner. J'adorais ce joueur d'origine cubaine. Il avait un surnom qui lui allait à ravir, Nervioso. Et c'est vrai qu'il était difficile d'imaginer un être humain plus agité que lui. Je crois pouvoir affirmer ne l'avoir jamais vu en position statique. Même dans les vestiaires, il trouvait le moyen d'aller et venir, de s'agiter, de tripoter sans cesse des choses avec ses mains, ses pieds, de se suspendre à une porte, de jouer au football avec des gobelets vides et cela jusqu'à ce que le gobelet s'épuise. Nervioso avait une énergie exceptionnelle. Il était une sorte de gros hamster compulsif, alimenté par une pile à combustible qu'il n'hésitait pas à recharger de quelques rails de cocaïne chaque fois que la situation l'exigeait.